France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il vaut mieux brûler franchement que de s'éteindre à petit feu. Certes, surtout si l'on veut faire partie du club des 27. Il ne se voyait pas mourir d'une overdose, non, mais se tirer une balle dans la tête, oui. Avant cela, jouer de la guitare et chanter sans se vouloir porte-parole de sa génération. Rediffusion d'Une vie, une œuvre, proposée pour la première fois sur France Culture le 16 septembre 2017.
J'ai découvert la première fois le groupe dans le magazine Best.
Lelo Jimmy Battista.
Dans le numéro de novembre 1990, je m'en souviens précisément, avec Public Enemy en couverture. Et en gros, il y avait un dossier sur les néo-métallistes. Et il y avait Nirvana dedans. Mais Nirvana, c'était vraiment la portion congrue du dossier. Il y avait un tout petit paragraphe sur eux. Et je me souviens juste d'une phrase, à l'époque c'était l'album Bleach, et il décrivait le morceau Negative Creeps en disant que c'était comme un éclair à la vanille qui aurait été fourré à la moutarde. Pour décrire en fait que c'était de la pop, mais avec un côté très intense et agressif. Donc cette phrase m'avait vachement plu et je me suis dit il faut absolument que j'écoute ce truc. Dans cette période-là, donc plutôt printemps 92, tous mes potes sont venus me voir et m'ont dit mais il faut qu'on aille voir un concert. Ok, d'accord, ça marche. Et on avait donc voulu aller voir Metallica, c'était à Bercy, c'était complet. On avait deux autres options, c'était ou Nirvana ou le concert des Guns N' Roses avec Soundgarden et Faith No More à l'Hippodrome de Vincennes. On est parti sur Nirvana. Et c'était très très réglementé comme concert. Je veux dire, il n'y avait pas de folie. Et à la fin, ouais, donc Kurt Cobain cassait sa guitare. On aurait dit que vraiment il l'a fait parce qu'il fallait le faire et que les gens attendaient ce moment. Et ça a été accueilli comme dans un discours quand quelqu'un sort le truc. C'était un peu gênant en fait.
Kurt Cobain, il représentait quoi pour ce public averti, avisé du rock indépendant? C'était quoi? C'était une mascotte? C'était un symbole? C'était un paria? C'était un espoir?
C'était juste un chanteur d'un groupe de rock. À l'époque, c'était juste bon. En 92, pour le coup, c'était vraiment le groupe le plus populaire dans ce créneau-là. Et pas grand-chose de plus, c'est-à-dire... Moi, je sais qu'autour de moi, les gens étaient beaucoup plus impressionnés par Chris Cornell de Soundgarden ou Eddie Vedder de Pearl Jam, quoi.
Cobain était très très simple.
Renaud Monfourny.
Il était fringué comme l'as de pique, je me souviens très bien. Il avait un t-shirt XXL dans un corps de crevette avec marqué dessus Sounds. Voilà, bon, de toute façon, l'image qu'on a. Genre, si on dit grunge, on dit Kurt Cobain. Et qu'est-ce qu'on pense? Un mec avec les épaules qui tombent, qui se balade comme ça dans la rue. Kurt Cobain avait un charisme naturel. C'était pas du tout quelque chose de maniéré, de réfléchi, ou au contraire. Ça passait juste par sa petite gueule d'ange, son regard. C'était un regard perçant, puissant. C'était pas ce bleu effacé qui est très joli parfois sur les actrices, mais où on sent qu'elle est peut-être un peu folle quelque part.
C'est un marginal. Stan Cuesta.
De toute façon, ça sera un marginal toute sa vie, mais même dans une scène marginale, il arrive à être marginal. C'est ça qui est assez amusant. Le truc de Cobain, c'est qu'il appartenait à aucune chapelle.
Il était aussi très sympa, d'un naturel doux.
Laurence Romance.
Un petit peu irritable à l'occasion, quand des questions l'énervaient. Il n'irradiait pas particulièrement la bonne santé, mais il était vif, concentré. Et ce qu'il était sous héroïne, difficile à dire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ses réponses étaient suffisamment franche, pertinente, réfléchie, pour que je me dise qu'il n'était pas du tout aussi cramé que la rumeur le prétendait.
Il y a un truc dans le mal-être qui transparaît dans ses chansons, qui n'est pas adulte. Et c'est vrai que le fait de mourir très jeune, comme Jimi Hendrix, comme quelques autres avant lui, fait qu'on reste à une espèce de pureté de la jeunesse, et donc qui ne peut pas être ternie.
Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu quelqu'un au fait de sa gloire qui, en plus, arrêtait quand même pas de répéter qu'il s'emmerdait dans ce monde ultra-capitaliste, ces grosses maisons de disques, et que tout ce qu'il voulait, c'était jouer de la musique avec ses potes dans un club et s'occuper de sa famille. Alors en plus de ça, effectivement, il y avait aussi le côté noir de la famille, c'est-à-dire qu'il avait quand même épousé une frappadingue de première. Et donc voilà, ça c'est un cocktail presque naturel pour faire un truc iconique.
Kurt Cobain, il est né en 67. À Aberdeen, c'est une petite ville du nord-ouest des États-Unis, donc c'est vraiment le bled, quoi, industriel, assez triste d'après ce qu'il racontait, qui a un peu façonné son idée de l'Amérique d'une certaine façon, et il n'a eu de cesse que d'aller dans des villes de plus en plus grandes par la suite. Il disait toujours qu'il avait été très heureux jusqu'à l'âge de 7 ans, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 ans, et à partir du moment où ses parents se sont séparés, il a commencé à se renfermer sur lui-même, à devenir angoissé, enfin tous les troubles qu'il a connus toute sa vie sont nés là, semble-t-il. Quoi.
Il a eu des relations conflictuelles avec son père, je crois, enfin en tout cas assez compliquées.
Oui, avec son père, avec sa mère aussi d'ailleurs, avec les nouveaux conjoints de ses deux parents. Enfin, disons qu'il s'est fait un peu jeter de chez sa mère, puis de chez son père. Il a fini d'ailleurs par aller dans des familles d'accueil, enfin les familles de ses amis, ou carrément dormir dans la rue parce qu'il se faisait jeter de chez sa mère ou de chez son père régulièrement, oui. Le divorce de ses parents l'a marqué à un tel point qu'à un moment, pour recruter les membres du futur Nirvana, il mettait dans ses annonces, ou en tout cas comme prérequis, au même niveau qu'un tas d'influences musicales, doit avoir des parents divorcés. Ce qui était le cas d'ailleurs avec les deux autres membres de Nirvana finalement. Fin des années 70 aux États-Unis, qu'est-ce qu'on entendait à la radio? C'était, enfin des trucs qu'on oublie aujourd'hui, hein, Journey, Boston, Rush, Sammy Hagar, des trucs comme ça, des trucs à côté desquels Queen c'était carrément punk, c'était vraiment des groupes tellement atroces vus d'aujourd'hui, mais ça se vendait par millions d'albums aux États-Unis, et lui écoutait naturellement ça. Son père écoutait beaucoup Queen, mais lui, il a tout de suite commencé à aimer les Beatles très jeune, des choses très, très pop, très, presque variété, comme on pourrait dire en France. Par exemple, un truc qui a été un tube immense qui s'appelait Seasons in the Sun de Terry Jacks, qui est en fait l'adaptation du Moribond de Jacques Brel. C'est assez drôle, parce que c'est une chanson sinistre et qui apparaît comme une chanson assez gaie et qui a été numéro un des parades à l'époque. Et il a commencé très tôt, il tapait sur des tambours et tout, il a très vite eu envie de jouer lui-même. Goodbye, papa, please play for me. Papa's the black sheep of the family. And I don't know all his words. I had Bobby turds. With my BB gun, I would kill birds. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Up the hills that we climbed, but the seasons out of time. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. Of the world that we need, where the starfish on the beach. Alors il y a eu effectivement ensuite la découverte du punk, qui est un moment assez rigolo où il revend ses disques pour s'acheter celui de Black Flag par exemple. Et au début qu'il cite ses influences pour des journalistes ou dans ses carnets intimes, etc., il ne parle que du punk parce que c'est cette nouvelle découverte. Donc il dit voilà, il cite des tas de disques de punk relativement inconnus, etc. Et puis quelques temps après, il refait une nouvelle liste en disant voilà en fait la vraie liste des choses qui m'ont influencé. Soyons honnêtes, reconnaissons les choses. Et là, il se met à citer tous ces groupes comme Queen, comme The Cars, comme etc., qui sont des groupes à la fois pop et metal, et qui l'ont autant, sinon plus, influencé que le punk qu'il a découvert tardivement. En rencontrant justement les Melvins, qui était un groupe qui au début était un peu dans cette mouvance punk hardcore, au début des années 80, qui jouait très vite, très fort, et dont le leader, donc Buzz Osborne, sera quelqu'un de très important. Kurt va devenir une sorte de de factotum du groupe, comme plein de gens. C'était le groupe important à l'époque à Aberdeen et puis dans les environs. Et il va devenir ami avec eux à tel point qu'il les suivra partout. Enfin, ça sera son, un peu comme une espèce de guide spirituel, Buzz Osborne, pour Kurt Cobain. Et il va lui faire découvrir tous ces groupes inconnus, mais encore relativement peu connus aujourd'hui, comme Flipper, voilà, Million of Dead Cops, etc. Des groupes assez obscurs, les Bottle Surfers, etc.
Il y a deux villes après Aberdeen qui ont compté pour lui, c'est Olympia et Seattle, deux villes de l'État de Washington. On commence par Olympia. Olympia, c'est quoi comme genre de ville et qu'est-ce qui s'y passe quand il y arrive, Kurt Cobain ?
Alors, Olympia, c'est beaucoup plus petit que Seattle dans l'État, mais c'est beaucoup plus grand qu'Aberdeen. Disons, c'est entre les deux au niveau taille. Et surtout, c'est la ville universitaire. C'est la ville où il y a des intellectuels, quelque chose qu'il n'y avait pas du tout à Aberdeen. C'est-à-dire des jeunes qui s'intéressent à autre chose que Led Zeppelin et les fast-food. Et voilà. Et là, il va rencontrer évidemment quelqu'un de très important qui est Calvin Johnson du label Care Records et qui avait fondé plusieurs groupes dont Beat Happenings. Et Calvin Johnson sera une sorte de modèle pour Kurt. Il lui fera découvrir beaucoup, beaucoup de choses, surtout de la musique un peu punk mais minimaliste, des choses assez underground. C'était vraiment le champion de l'underground. Et Olympia, c'était ça. Et il sera tellement fasciné par cette ville qu'il va même s'y installer un temps. C'est-à-dire qu'il quitte son trou pour s'installer à Olympia, ce qui pour lui est une accession à la culture.
Quand il commence à faire de la musique, il va à Olympia.
Isabelle Shelley.
Qui est près de Portland et qui est une ville complètement dominée par une scène rock indé, mais surtout très féminine. C'est là d'où vient le mouvement Riot Girls.
Alors, il y a une petite amie qui l'aura dans ce milieu-là, qui est Toby Veil.
Oui. Qui est cofondatrice de Bikini Kill avec Kathleen Hanna, qui sont... D'abord, à la base, c'est des filles qui font des fanzines, donc des petits magazines où elles parlent énormément de féminisme, où elles dénoncent la violence contre les femmes, qui est quand même très forte à l'époque. Il y a un projet de loi, en plus, aux États-Unis qui risque de mettre à mal les droits sur l'IVG, etc. Donc, Toby Veil va l'éveiller à énormément de choses, lui apprendre justement le féminisme, elle va l'éveiller à tout ça, lui donner cette espèce de sensibilité qui va composer des chansons.
Alors c'est sa rupture avec Toby Veil et surtout le chagrin qu'il éprouve à la suite de cette rupture qui va lui inspirer toutes ses chansons. Quelles sont ces chansons ?
Alors il y a Lounge Act où il parle d'une mystérieuse amie qui veut qui à la fois l'étouffe et à qui il a essayé de voler des choses, enfin voilà, c'est... Et il y a une autre chanson qui parle d'elle, et là j'ai le titre qui m'échappe. Aneurysme, je crois, voilà. Qui est aussi, pareil, une chanson de où il y a énormément d'allusions, et là où il raconte justement, où il fait des allusions à la drogue. Il raconte aussi son arrivée à Olympia, où lui se sentait au départ un peu mal à l'aise. Il a un petit côté plouc par rapport à tous ces gens qui sont extrêmement branchés, extrêmement cultivés. Et à la fois, on sent qu'il y a une admiration pour Toby Veil dans ce morceau et aussi un rejet un peu de toute cette scène qui est extrêmement branchée, cultivée et où lui se sent un peu à l'écart, même s'il est avec la fille la plus cool de cette scène. Il se sent un peu en porte-à-faux, en retrait, un peu mal vu, un peu... alors que... C'est Kurt Cobain, quoi. Come on.
y a une autre femme qui a beaucoup compté pour Kurt Cobain, même s'il ne l'a pas connue, c'est Frances Farmer. Qui est Frances Farmer?
C'est une actrice qui est arrivée à Hollywood, qui n'a pas voulu du tout marcher dans le système des studios, qui à l'époque, dans les années 40-50, était extrêmement rigide. C'est-à-dire qu'on prenait une starlette, une jeune fille qui débarquait pour tenter sa chance ou qui faisait du théâtre. Et on la façonnait. Elle, déjà, elle arrive à Hollywood et elle refuse qu'on lui épile les sourcils de cette manière-là. Et elle refuse qu'on la maquille de telle ou telle façon. Et on commence à lui expliquer que pour mener sa carrière, c'est bien qu'elle se fiance avec cet autre aspirant acteur. Parce qu'on adorait monter aussi des histoires d'amour comme ça. Et elle refuse de tomber dans tous ces clichés-là. Et elle décide de mener sa carrière comme elle veut, sauf qu'à un moment, elle passe son temps à se battre contre des montagnes et sa carrière va pas comme elle veut. Puis elle ne respecte pas du tout les règles. Quand elle a envie de partir faire une saison de théâtre à New York, elle plante tout le monde sans demander son accord. Et Kurt Cobain s'est identifié à cette figure de personne qui ne veut pas rentrer dans un cadre, dans un moule. Et il y a une chanson donc, où il dit « Frances Farmer will have a revenge on Seattle ». Donc où il imagine qu'elle revient et qu'elle brûle la ville et qu'elle contemple la ville, enfin qu'elle marche sur un tapis de cendres. Et lui a un peu ce fantasme aussi de revenir à Seattle et de tout cramer. I feel impatient, display patience, he's got my pills inside. She come back as fire. Burn all the liars, leave a blanket of ash on the ground.
Alors Seattle, c'est la grosse ville, c'est la ville d'où viennent toutes les grosses sociétés qu'on connaît. Il y avait Boeing, qui était le plus gros employeur de l'État. C'est vraiment la ville industrielle, et puis c'est là où il va, faire ses plus gros concerts, où Nirvana va vraiment commencer à faire des gros concerts, et c'est là où surtout il va se mélanger à cette scène qu'on appellera par la suite grunge, où tous ces groupes sont, même s'ils sont pas eux-mêmes de Seattle, mais disons c'est comme Paris en France, c'est là où tout le monde se retrouve. Donc il y avait Soundgarden, Mudhoney, tous ces groupes-là se retrouvent à Seattle, et c'est la ville de Sub Pop, le label qui va signer le premier contrat discographique de Nirvana, qui est un moment très important dans la carrière.
Moi je vais dans l'est de la France, partie de la France s'appelle la Haute Saône, qui est en dessous des Vosges. Et il se trouve que déjà quand on a vu Twin Peaks à la télé, on s'est dit tiens, il y a des similitudes avec notre région quand même. Et après moi j'ai pu aller à Seattle, Portland, dans ces coins là et effectivement c'est l'équivalent américain du coin dans lequel on habite, qui est assez rural. Et après il y a des villes quand même assez proches, mais il y a ce côté un peu bûcheron, on va dire. Et en fait, la première fois que j'ai entendu Nirvana, c'était le single Sliver sur la radio Couleur 3. Et j'avais été un peu déçu sur le coup, parce que Sliver, c'est un titre assez plus pop, c'est pas pop, mais joyeux, on va dire. Et je m'étais dit, c'est ça, c'est bien, mais c'est efficace, mais c'est moins bien que ce que j'imaginais. Et puis après, il y a eu la sortie de Nevermind, c'était à la rentrée, je me souviens de la rentrée scolaire 91, donc c'était en septembre-octobre.
Nevermind, c'est un tournant, évidemment, parce que le premier album, Bleach, était quand même très, très brut de fonderie, si je puis dire. Il avait été enregistré en quelques jours par Jack Endino dans son petit studio. C'est un album violent, brut, où il y a juste les instruments qui jouent, il n'y a pas de re-recording, il n'y a pas de truc fait sur le mixage, etc. Et Nevermind, pourquoi est-ce que c'est un tel changement? C'est pour plein de raisons, en fait. D'abord, ils ont été signés sur une major. Ils étaient sur Sub Pop pour Bleach et ils passent chez Geffen pour Nevermind. Donc, il y a une espèce de pression d'embourgeoisement, d'aller dans un grand studio en Californie, de prendre un producteur qui, finalement, n'est pas forcément le premier choix, c'est Butch Vig, mais qui va faire beaucoup pour le disque. Cobain va faire des essais, faire plusieurs guitares, plusieurs voix, doubler ses voix. Donc, accentuer le côté pop de sa musique. Les chansons sont évidemment de très grande qualité. Il y a beaucoup de ballades, etc. Et ils vont vraiment travailler en studio. Et en plus, ils vont faire appel à Andy Wallace pour mixer l'album, qui est quelqu'un qui travaillait dans le métal, etc., mais qui avait un vrai sorcier des studios, qui s'est donné une patine au disque radiophonique. C'était ça l'idée, quoi. C'était de passer à la radio.
Smells Like Teen Spirit, c'est le tube qui est complètement inattendu, qui leur tombe un peu, qui est hyper bien produit par Bojvik, qui est vraiment, et du coup ça devient une espèce d'hymne, alors qu'à la base ça part d'une blague, mais il y a ce titre, donc ça sent l'esprit adolescent, alors qu'en fait le Teen Spirit c'est pas du tout de l'esprit adolescent, c'est un déodorant cheap qu'on achète dans les hypermarchés américains, qui est un déodorant pour jeune fille qui a des espèces de parfums genre fraise, talc, et c'est Kathleen Anna qui un jour se dispute avec lui et fait ce graffiti sur un mur genre Kurt smells like Teen Spirit. Lui trouve ça tellement drôle qu'il décide d'en faire une chanson. Et les paroles ne veulent absolument rien dire. C'est une espèce d'accumulation d'images complètement bizarres, complètement surréalistes, mais qui l'enchaînent comme ça.
Évidemment, quand Nevermind est sorti, il fallait vraiment être sourd pour ne pas entendre que ça allait devenir énorme.
Vous voyez les charts dans les magazines. C'était surréaliste de voir Nirvana en deuxième ou en premier dans les charts américains avec le reste, c'était l'enfer, quoi. C'était Garth Brooks qui faisait de la country, c'était Michael Jackson avec Dangerous, c'était des gens comme ça, quoi. Bruce Springsteen. En gros, les gens qui étaient dans les charts depuis les années 80 et que ça n'avait pas bougé, quoi. Quand tu prends en plus sur la période, le succès, il est presque pas mathématiquement explicable, mais presque. C'est vraiment une sorte de timing, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des groupes qui avaient préparé le terrain. Et c'est un peu, ouais, voilà, c'est un peu le groupe qui est venu tout balayer ça, alors qu'on attendait plus, effectivement, Jane's Addiction ou les Pixies.
Le groupe a continué à faire sa petite tournée en Europe dans son petit bus pourri, dans des clubs de 300 personnes, dans des hôtels 2 étoiles. Il passait par les transmusicales de Rennes. Et pendant ce temps-là, ça bastonnait aux États-Unis sur MTV. Ils étaient devenus méga stars, mais ils continuaient d'être un petit groupe de grunge en tournée en Europe.
Et ils vont faire cette vidéo dans un gymnase où il y a des cheerleaders qui sont absolument pas blondes, jolies, mais des filles tatouées de partout, mais qui sont très jolies quand même, mais dans un côté complètement anti-cheerleader américaine. Et cette vidéo devient une espèce d'emblème sur MTV qui la passe, je sais plus, un moment, je crois qu'il la passe 20 fois par jour parce que les gens la réclament. Et ce morceau devient un tube énorme que Kurt Cobain ne veut plus jouer, ou il s'amuse à en jouer 2 mesures sur scène et à l'arrêter. C'est le truc encombrant dont on a marre très vite, parce que c'est la chanson que tout le monde connaît, y compris des gens qui connaissent rien Nirvana mais qui vont venir au concert pour entendre cette chanson qu'ils voient comme un hymne à l'adolescence, alors que c'est pas ça du tout. C'est une blague à la base.
Nevermind, même s'il y a eu une longue période durant laquelle j'ai pas pu écouter ce disque, parce que forcément, moi, j'ai connu la période où on l'écoutait en boucle, maintenant je le réécoute de temps en temps et je suis toujours étonné par le fait que les morceaux n'ont rien perdu de leur fraîcheur, quoi. Bleach et Nevermind, c'est des disques, quand on les a écoutés, c'est des disques qui sont hyper pleins d'air, tu vois. Genre, un exemple que je donne, c'est typiquement, ça va être l'intro de In Bloom, c'est vraiment. C'est comme quand tu ouvres la fenêtre de ta maison de vacances. Et aujourd'hui, je l'écoute encore, ça me fait toujours cet effet-là.
Les paroles de Cobain ne sont pas forcément très compliquées ou très longues. C'est souvent quelques mots. Et lui disait que c'était pas très important. C'est-à-dire que c'était souvent des sonorités, il jouait avec des sonorités, etc. Mais il avait aussi tendance à les sous-estimer volontairement, je dirais, quoi. Dire non, mais pour pas passer pour un intello un peu. Mais en fait, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup et on retrouve dans ses chansons des bribes de textes qu'il avait écrits bien avant dans ses carnets. Donc on voit bien que c'est pas si hasardeux que ça, c'est pas n'importe quoi. Voilà, il y a un sens, même si c'est par petites touches et par assemblage de mots qui semblent faits au hasard, finalement ouvre un champ assez étonnant. Et voilà, après il y a des gens qui se penchent sur ces textes, évidemment, parce que c'est devenu une sorte de prophète. Oui, et lui, ça le faisait un peu marrer, évidemment.
Ouais, justement, il y a le journaliste américain Chuck Klosterman qui a une théorie dans un de ses articles qui dit, en fait, est-ce que la dépression de Kurt Cobain ne viendrait-elle pas du fait qu'il y avait tant de gens qui s'intéressaient à ce qu'il racontait, alors qu'en fait, il n'avait pas grand-chose à dire. C'était un mec qui écoute de la musique, qui était fou de musique, qui avait envie d'en faire lui aussi, qui voulait faire des très bonnes chansons, qui a réussi à en faire des très très bonnes. Et je pense pas qu'il avait envie de dire des choses bien précises. Il avait juste envie d'exprimer des trucs perso, quoi.
Ceci ne doit pas être pris au sérieux.
Extrait du journal de Kurt Cobain.
Ceci ne doit pas être lu comme des opinions. Ceci doit être lu comme de la poésie. Nous nous posons tous des questions sur l'amour et le manque d'amour et la peur de l'amour. Il est bon de remettre en cause l'autorité et de la combattre, ne serait-ce que pour rendre les choses un peu moins chiantes. Mais je suis toujours revenu à la conclusion que l'homme était irrécupérable et que des mots qui n'ont pas forcément le sens qu'on leur prête peuvent être employés dans une phrase de façon artistique.
Elle est très très ambiguë parce que la première fois qu'on l'entend, on a l'impression, enfin c'est un violeur qui parle et il parle de Polly. On a l'impression, en plus on se dit, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un animal domestique, parce qu'il dit Polly veut un biscuit, enfin ça a un côté très bizarre. Et il parlait, peut-être que je pourrais la détacher, peut-être que... Et on sent qu'il est en train de torturer une jeune fille. Et en fait cette chanson a été écrite en hommage à une vraie jeune fille de 13-14 ans qui a été kidnappée à la sortie d'un concert par un violeur en série qui l'a enfermée dans son coffre de voiture, enfin qui l'a violée, qui l'a... Et elle a fini par lui échapper par la ruse en lui faisant croire d'abord qu'elle appréciait ce qu'il lui faisait et en lui disant « maintenant tu peux peut-être me faire sortir de la voiture » et elle a fait un tapage énorme et elle a pu être sauvée... Et Kurt Cobain a lu ce fait divers qui est complètement sordide et a décidé d'en faire une chanson qui met très mal à l'aise quand on l'écoute. Et puis quand on sait d'où elle vient, on comprend très bien que le chanteur se met dans la peau d'un violeur pour instaurer ce malaise. Et malheureusement, la chanson Polly a connu un sort un petit peu horrible parce que plus tard, comme dit Kurt Cobain, de gâchis de sperme, à nouveau violer une fille en lui chantant cette chanson et ce qui a totalement bouleversé Kurt Cobain parce qu'il comprenait pas qu'on puisse à ce point-là mal le comprendre. Isn't me heaven seed, let me clear dirty wings, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself, got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.
Évidemment, avec le succès de Nevermind, en gagnant des tas de nouveaux fans, il devenait aimé par des gens qu'il n'aimait pas. Et c'est ça son grand problème. Tant qu'il restait à une échelle humaine de fans qui étaient des gens qui aimaient la même musique que lui, ça ne lui posait pas de problème. Il avait ce souci de la communauté. C'est-à-dire, s'il vendait 20 000 disques, il savait que les 20 000 personnes qui avaient acheté son disque étaient des gens comme lui. Quand il en vendait 1 million, c'était des beaufs. Forcément. Il y a forcément tous ces gens qu'il n'avait pas aimés dans son enfance, c'est-à-dire que pour lui représentaient l'Amérique profonde, parce qu'il était très défenseur des droits des femmes, des homos, etc. Voilà. Et ça, il se disait, bah oui, mais dans mon public, si j'en vends tellement, il y a forcément des gens comme ça. Et ça, ça le rendait malade, effectivement. Au sens propre, presque.
Je lui ai demandé, lors de cette fameuse interview du 10 août 1993 à Seattle, s'il savait, lui, s'il avait une idée d'où venait cette colère. Et il m'a répondu, non, je ne sais pas du tout d'où vient ma colère. Et en fait, je pense que si je pouvais l'expliquer, j'aurais probablement plus rien à dire du tout, quoi.
Les oiseaux sons aient toujours été des vieillards réincarnés atteints du syndrome de Tourette qui ont réussi à déjouer le schéma reproductif. Ils baisent, s'occupent de leur maison et de leurs enfants sans jamais oublier leur véritable mission, hurler à plein poumon, avec une rage démoniaque horrifiée, chaque matin à l'aube pour nous rappeler qu'ils connaissent la vérité. Dans le monde entier, ils nous hurlent aux oreilles le meurtre et le sang. Mais malheureusement, nous ne parlons pas le langage des oiseaux. Les baleines répondent à l'aide d'un message similaire à notre intention. Elles s'échouent.
In Utero, c'est la réaction du gars qui a eu trop de succès avec Nevermind, qui trouve que l'album est trop léché et qui veut de nouveau peut-être se faire plaisir et aussi faire plaisir aux gens qui l'ont critiqué. Donc, il écrit des chansons qui sont formidables. In Utero, c'est plein de très très bonnes chansons. Mais il se dit, cette fois-ci, je vais pas leur donner cette patine commerciale et je vais faire appel au plus intégriste des intégristes, c'est Steve Albini, donc, qui est connu pour même pas dire qu'il produit les disques, mais il veut juste qu'on dise qu'il les enregistre. Et effectivement, il branche les micros et hop, allez-y les gars, tout le monde joue live. Et ensuite, le mixage, c'est une heure et c'est terminé.
Il y avait un comportement qui, à l'époque, me dérangeait pas mal. Aujourd'hui, en l'analysant un peu, je comprends pourquoi. Et il y a une phrase que j'aime bien de Alphonse Bertillon, c'est « on ne peut voir que ce qu'on observe, et on observe que ce qui se trouve déjà en l'intérieur, enfin dans notre esprit. » Et en gros, c'est ça quand t'es artiste, c'est que je pense que tu parles de toi, mais après tu l'enrobes de choses et d'autres, et tu parles de choses que tu connais. In Utero, c'est la meilleure preuve que tu peux avoir de ça, puisqu'en fait, on se rend compte qu'en gros, il parlait plus de lui en fait. Il était en train de, comment dire, de parler de tout ce qu'il voulait éviter. Et là, tu parles dans autre chose. C'est-à-dire que t'es plus en train de parler de toi et de ce que t'aimes, mais t'es en train de parler de tout ce que tu ne veux pas être. Et là, ça devient un peu malsain. Rape me, rape me, my friend, rape me. Rape me again. I'm not the only one. 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 Hate me. Good and good again.
En gros, Rape Me l'a écrite après la naissance de sa fille Frances Bean, et au moment où Courtney Love était enceinte, ils sont interviewés par le grand magazine américain Vanity Fair, et il y a une journaliste qui est qui est décidé un petit peu à faire du scandale, ce qui n'est pas du tout l'esprit de Vanity Fair, mais là, je ne sais pas, elle commence à gratter et elle commence à sous-entendre que Courtney Love aurait pris de la drogue quand elle était enceinte. L'affaire s'envenime, on décide de leur reprendre leur fille. Et en gros, Rape Me, c'est aussi une façon de dire qu'eux ont subi une espèce de viol médiatique et d'invasion de leur vie privée. Rape Me, c'est une chanson sur le fait qu'on peut vous faire quoi que ce soit, on vous arrachera pas votre essence, votre esprit, votre force vitale.
S'est retrouvé dans une position où il était une espèce d'icône, voire limite un porte-parole. Enfin, au bout d'un moment, à l'époque d'Inutero, les gens parlaient carrément de porte-parole d'une génération, ce qui était quand même hyper embarrassant et hyper dur à porter, quoi. Enfin,
il ne se voulait absolument pas porte-parole d'une génération. Il trouve limite pathétique les jeunes qui s'adressent à lui, comme s'il était un putain de dieu, parce qu'il se sent leur égal, et il voit pas pourquoi on vient lui demander des autographes et tout, etc. Et en même temps, il est lui-même à peine sorti de l'adolescence. C'est quelqu'un qui était en complète contradiction dans tous les aspects de sa vie, pour moi. C'est quelqu'un qui prétendait ne pas vouloir de gloire et de publicité, etc. et tout, mais qui, d'après tous ses biographes, jouait de la guitare imaginaire devant son miroir dès qu'il a l'âge de 4 ou 5 ans. Quelqu'un qui ne voulait pas de publicité et qui épouse Courtney Love, qui n'est pas spécialement une personne qui voulait rester dans l'ombre. Quelqu'un qui, une fois de plus, ne voulait pas de la gloire et de la pression des médias, etc. Mais qui appelle MTV quand tel ou tel clip n'est plus en heavy rotation, pour demander pourquoi. Quelqu'un qui revendiquait l'esprit punk, voilà. Quelqu'un qui a demandé rétroactivement que, après les 10 millions d'albums vendus de Nevermind, 75% des royalties lui reviennent en tant qu'auteur-compositeur. Non, c'était quelqu'un qui était bourré de contradictions, dans absolument tous les aspects de sa vie, je dirais.
J'aime que les gens se sentent heureux et éprouvent un sentiment de supériorité en me voyant. J'aime haïr ceux qui ont la haine. J'aime pratiquer des incisions dans le ventre des nourrissons et baiser les plaies jusqu'à ce que l'enfant meure. J'aime la sincérité. Je manque de sincérité. Ce n'est pas un avis ni la voix de la sagesse, mais un désaveu. Le désaveu de mon manque d'éducation, de ma perte d'inspiration, de ma terrifiante quête d'affection et de la honte systématique que j'éprouve envers la plupart des gens du même âge que moi. Ce n'est même pas un poème, seulement un gros tas de merde. Comme moi. Chacun a sa propre définition des mots. Et dans un contexte musical, on ne peut pas attendre des mots qu'ils aient la même signification que dans le vocabulaire courant. Parce que je considère la musique comme un art. Et quand j'affirme « cette chanson, c'est de l'art », je veux pas dire par comparaison à un tableau, parce que selon moi, les arts visuels sont loin d'être aussi sacrés que la communication par l'écrit ou la musique, mais c'est quand même de l'art. Sappy, mix one.
Alors, c'est vrai que Kurt Cobain, c'était un artiste complet, même si on le connaît pour sa musique. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire des dessins, des peintures, des collages, des bricolages. C'est presque de l'art brut par certains côtés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire autrement. Depuis tout jeune, hein, à l'époque où il était avec sa première petite amie et où il était en colocation dans des appartements où tout le monde bossait, lui est resté à la maison. Enfin, il a essayé de travailler un peu dans sa vie, mais ça n'a jamais été un grand succès. Et son truc, c'était de rester chez lui et de créer des trucs. C'est-à-dire aussi bien il faisait des cassettes, ce qu'on appelle on appellerait des mixtapes aujourd'hui. C'est-à-dire il mélangeait des tas de trucs sur des cassettes qu'on a finalement retrouvées, qu'on a donné naissance au film Montage of Heck. Il faisait des collages avec des objets, des trucs assez provocateurs, enfin disons avec du sang, enfin voilà, des choses, des bébés, des trucs. Et il peignait et il écrivait.
Il suffit de regarder les pochettes. La moindre pochette d'album est toujours ornée. Alors, il peut y avoir des petits fœtus. Il y a la première échographie de leur fille, parce qu'ils avaient quand même très très peur qu'elle soit pas tout à fait normale. Et donc, ils ont mis la première photo d'échographie de leur fille sur une pochette. Il y a donc pendant la tournée In Utero, il y a deux grands mannequins sur scène de femmes écorchées avec des organes. Je crois qu'elles ont des espèces d'ailes d'ange. La vidéo de Heart Shape Box est une sorte de on a l'impression d'une balade dans un magasin des horreurs, enfin pas des horreurs, mais de il y a énormément comme ça de mélange et d'organes et de fleurs et de choses extrêmement féminines et de choses extrêmement sanguinolentes. Il y a, je crois, c'est une vidéo pour une chanson d'Incesticide où il fait justement danser sa petite fille et il y a plein de poupées ensanglantées autour et il y a un côté comme ça un peu macabre et à la fois un peu artistique. Box, donc la boîte en forme de cœur. Et Courtney Love avait cette espèce de fascination pour les boîtes, un peu comme les boîtes en chocolat que les Américains s'offrent à la Saint-Valentin. Un symbole qui est extrêmement cucu, extrêmement conventionnel. Mais elle les remplit, elle adore acheter ces boîtes et les remplir de petits objets, donc de meubles, de maisons de poupées, de mini-poupées, de coquillages, de choses. Et c'est un côté extrêmement, un peu un cadeau de petite fille. Et sauf qu'elle va en offrir une à Kurt Cobain dans laquelle il y a un petit peu d'héroïne.
Alors, qui est Courtney Love ?
Courtney Love, c'est un peu, on peut dire que c'est un pendant féminin de Kurt Cobain, une espèce de négatif. Elle a aussi des fêlures énormes, un peu la figure emblématique de tout ce qu'il aime. C'est une femme très forte, très indépendante, qui ne suit pas du tout les règles. Il suffit de lire les notes de pochette d'Incesticide où justement il y a tout un paragraphe sur elle. Et pour lui, c'est une sorte de refuge aussi. Et c'est aussi une âme. Enfin, il y a un côté aussi un peu âme damnée parce qu'ensemble, ils vont énormément prendre de drogue. Et je pense que si elle a eu un rôle dans la vie de Kurt Cobain, c'est quand même elle a permis qu'il vive beaucoup plus longtemps que ce qu'il aurait dû vivre. Elle l'a quand même sauvé d'une overdose une première fois. Elle l'a envoyé en cure de désintoxication. Elle a fait ce qu'elle pouvait et oui, c'est une figure controversée, oui, c'est une grande gueule, oui, c'est quelqu'un qui tient énormément de place, qui fait beaucoup de bruit. Et puis qui avait le mérite de ne pas vouloir se tenir à sa place et d'être juste une jolie fille dans les bras d'une rockstar.
My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through.
Il y a une autre influence musicale, c'est même plus qu'une influence, c'est une passion pour Kurt Cobain, qui est celle du bluesman Led Belly. Cette passion pour Led Belly, quand est-ce qu'elle naît? Pourquoi? Et comment elle se caractérise?
Sa passion pour Led Belly remonte, je ne sais plus à quelle époque exactement il a découvert ça, mais en tout cas c'était beaucoup lié à son amitié avec Mark Lanegan, qui était le chanteur donc des Screaming Trees. Et Mark Lanegan était très fan de vieux blues et de ces choses-là, et a fait écouter Led Belly à Kurt Cobain, à tel point qu'ils ont monté un groupe où ils ne voulaient faire que des reprises de Led Belly. Finalement, il ne restera que quelques traces de ce projet, dont un ou deux morceaux sur le premier album solo de Mark Lanegan, où il est accompagné par Kurt Cobain. Et puis, évidemment, la reprise de Where Did You Sleep Last Night, qui fera plusieurs fois, mais qu'il enregistrera pour l'émission Unplugged de MTV. Unplugged, c'est quelque chose qu'il avait peut-être pas vraiment envie de faire au départ. Et il a posé des conditions. Donc effectivement, qu'il y ait un décor un peu mortuaire, hein. C'est vrai que c'était un peu glauque, des feuilles d'arbres séchées, des teints assez pastels comme ça. Et c'était vraiment aussi l'anti-show, c'est-à-dire qu'il se présente quand même avec une espèce de sweat, de pull de camionneur là, complètement. Enfin bon, c'est vraiment il est comme à la maison, quoi. Et en fait, ce qui est un truc d'anti-star va donner encore plus de charme à sa performance, finalement. Ce qu'on a découvert au moment du Unplugged, c'est que c'était incroyable. On enlevait les distorsions, on enlevait la batterie démoniaque de Dave Grohl, etc., qui se contentait de jouer de façon très modérée, en faisant des chœurs. Cobain jouait de la guitare acoustique, super bien d'ailleurs, on le dit pas assez souvent, c'est un très très bon guitariste. L'autre, il jouait de la basse acoustique. Et ces chansons épurées qu'on avait l'habitude d'entendre dans un fatras sonore de distorsion et de hurlements apparaissaient comme presque des chansons folk, pop, folk, magnifiques. Et voilà, toutes. Mais pour Nirvana, c'est vraiment une révélation pour eux et pour le public. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, il y a des tas de gens qui n'écoutaient pas Nirvana parce qu'ils disaient, oh là là, c'est violent, ça fait du bruit, etc. qui se disent, waouh, qu'est-ce que c'est que ce mec? Il est de la trempe d'un Neil Young, quoi. Voilà. Le chant de Cobain, c'est aussi de l'art brut. C'est-à-dire que il s'est mis à chanter comme ça. Et moi, je trouve que c'est une des plus grandes voix du rock. Franchement, il y a une qualité de souffrance, je dirais, qui est extrême.
Sa voix me touche beaucoup. Il y a ce côté très, très à vif, très. On sent qu'il n'y a aucun affect, que ça vient des tripes, que c'est. Je peux pas dire qu'elle soit belle, parce que il y a des moments où il est à la limite de la justesse. Enfin voilà, il y a aucune technique. Il y a très peu de gens qui ont cette espèce de capacité à chanter de manière extrêmement viscérale comme ça. Puis il est capable d'énormément de nuances.
C'est souvent sur les reprises qu'on voit la qualité d'une voix, enfin la qualité et son pouvoir d'émotion. Parce que on a une référence en tête, mais le gars qui chante n'est pas en train de chanter ses propres mots, il est juste interprète. Et les quelques chansons que Cobain fait en tant qu'interprète, dont The Man Who Sold the World, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est une chanson à lui. Et par, sa, par le simple timbre, le grain de sa voix, qui est un grain incroyable, hein, complètement écorché, voilà, on sent toute la misère du monde. Dans, et pourtant, il n'en fait pas des tonnes. C'est pas du tout quelqu'un... Parce qu'après, il y a des chanteurs qui pleurent à la demande. Hein, et ça, c'est terrible. Non, lui, il chante comme naturellement. C'est-à-dire, il chante cette chanson, il prend la chanson de Bowie, il la chante comme ça, et on est sur le cul, quoi. Voilà.
Dans cet unplug, on a l'impression qu'il est emporté, il emporte les gens, mais lui aussi il est emporté. Et on a l'impression qu'il est parti, qu'il est déjà très loin.
Il voulait vraiment partir sur des choses acoustiques, avec des cordes, il parlait aussi pas mal de samples et de choses comme ça. L'album qui serait sorti après aurait pu être très intéressant en fait. Plus que In Utero qui finalement contenait ce côté un peu genre on veut montrer absolument qui on est, et qui était un peu forcé. Peut-être que s'il avait survécu, il aurait peut-être mis ça tout ça de côté, il se serait dit, bon voilà, maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire, j'ai pas arrêté de me prendre la tête. En plus, le fait qu'il veut le faire avec Michael Stipe, c'est quand même, il y avait quand même deux personnes assez importantes dans son parcours, enfin, c'est Neil Young et Michael Stipe, c'est-à-dire que c'est des modèles, et je pense qu'il a voulu s'approcher de Michael Stipe, dans le côté, c'était quand même quelqu'un qui était assez connu, c'était une star, c'était un peu une icône aussi, quoi. Mais il l'a bien géré, c'est-à-dire qu'il est resté ce mec... qui se défendait vachement pour l'écologie et les droits homosexuels, etc. C'était un mec qui était inattaquable. Et je pense que lui voulait un peu devenir Michael Stipe, mais qui n'a pas réussi à gérer le truc, parce qu'il était pris dans un truc beaucoup plus fou, quoi.
Justement, il vous parle de son avenir qu'il envisage comme Johnny Cash. C'est ce qu'il dit à un moment, non ?
C'est ça, oui. Ce qu'il m'a dit aussi et qui m'a frappé. Tout autant que les histoires de vouloir devenir comme Johnny Cash, plus même, c'est qu'il m'a dit, mais avant même de commencer, je savais qu'au bout d'un moment, ça deviendrait ennuyeux comme tout le reste, parce que tout devient aussi ennuyeux que respirer. Mais il est clair que Cobain, a souvent évoqué, a souvent parlé de suicide, soit en parlant de, son, de sa famille, ou de lui-même, et qu'il y avait des clés dans ses... Dans ses chansons, dans ses séances photos, dans les titres de ses chansons. Et tout à la fin, il le disait carrément à ses amis. Non, c'est pas d'une overdose que je vais mourir, je vais me tirer une balle.
C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, dont son grand-père dans sa famille, qui s'était suicidé. Il y avait une espèce de fatalité comme ça qui lui même faisait dire « Oui, bah de toute façon, moi, je me suiciderai aussi. » Après, il y avait une partie d'humour, de provocation. Il avait dit à un copain enfant, c'est vrai, « Je vais devenir une rockstar, je vais être immensément célèbre et puis je me suiciderai. » C'est assez terrible, surtout quand on sait la fin. En plus, on dirait que c'est vraiment une mise en scène. C'est-à-dire que il se suicide en écoutant le dernier album de R.E.M. qu'il laisse à côté de lui, plus sa lettre d'adieu où il cite Neil Young. Donc voilà, enfin c'est vraiment... C'est tragique et en même temps, c'est presque une œuvre d'art en soi aussi.
Fuck you all, this is the last song of the evening. Parlant du point de vue d'un ego expérimenté qui préférait évidemment être un plaignant émasculé et infantile, cette lettre devrait être assez facile à comprendre.
Tous les avertissements qui m'ont été donnés, des 400 coups du punk rock jusqu'à ma découverte, dirons-nous, de l'éthique qu'impliquait l'indépendance et la fusion avec votre communauté, se sont avérés très justes. Je ne ressens plus d'excitation à écouter de la musique, ni à en créer, ni à lire ou à écrire depuis maintenant trop d'années. Je me sens coupable de tout cela, bien au-delà des mots. Par exemple, lorsque nous sommes en coulisses, que les lumières s'éteignent et que les hurlements frénétiques de la foule commencent à se faire entendre, ça ne me touche pas autant que Freddie Mercury, qui semblait adorer et se délecter de l'amour et de l'adoration que cette foule lui témoignait, ce que j'admire et envie totalement. Le fait est que je ne peux pas vous tromper, aucun d'entre vous. Cela n'est honnête ni pour vous ni pour moi. Je vous remercie tous depuis la fosse brûlante de mon estomac nauséeux pour vos lettres et votre intérêt ces dernières années. Je suis un bébé trop lunatique et trop instable. Je n'ai plus la passion et rappelez-vous, il vaut mieux se consumer que s'éteindre à petit feu. Paix, amour, empathie. Kurt Cobain. Francis and Courtney, je serai à votre hôtel. S'il te plaît, Courtney, continue pour Francis. Pour sa vie, qui sera bien plus heureuse sans moi. Je vous aime. Je vous aime.
Yeah, all those stars drip down like butter. Promises you see. We hold out our hands with our hands to catch them. We eat them up, drink them up, Yeah. Michael Stipe est resté très ami avec Courtney Love et elle lui a offert effectivement une guitare de Kurt sur laquelle il a composé cette chanson hommage à Cobain qui s'appelle Let Me In. Et voilà, c'est un des plus beaux hommages qui lui a été rendu, je pense.
C'était Kurt Cobain. Avec Isabelle Chellet, Laurence Romance, Stan Cuesta, Lelo Jimmy Battista et Renaud Monfourny. Lecture par Elia Biermann et Caroline Dusset. Le journal de Kurt Cobain, traduit par Laurence Romance, est paru chez XO Éditions et réédité en poche aux éditions 10-18. Prise de son, Yves Lehors, Julien Douminc et Philippe Thibault. Mixage, Pierrick Charles. Attaché d'émission, Claire Poissignon. Un documentaire de Tanguy Blum, réalisé par Somanina.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 septembre 2017. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.